Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous. Ce soir, à la une, le nucléaire. Alors stop ou encore écoutez RTL Soir et faites-vous un avis. Emmanuel Macron, lui, a choisi. Les réacteurs constitueront la pierre angulaire de son plan France 2030, plan dévoilé aujourd'hui. 30 milliards pour dessiner l'avenir. Hydrogène, avions bas carbone, voitures électriques. L'invité de 18h15 sera justement Jean-Baptiste Djebbari, le ministre en charge des transports. Mais cette question demeure, pourrions-nous nous passer du nucléaire? Est-ce vraiment l'énergie des 10, 20, 30 ans à venir? Dans quelques minutes, face à face, deux chefs de service ici à RTL, Martial You et Virginie Garin, ils vont vous présenter les arguments des pros et des anti. Vous allez entendre deux visions du monde s'affrontent et vous allez surtout pouvoir choisir votre camp. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Il avait rejoint l'Angleterre dès le mois de juin 40. Il était le dernier compagnon de la Libération. Hubert Germain est mort à l'âge de 101 ans. Dans ce journal aussi, Xavier Bertrand participera au congrès LR en vue de la présidentielle. Qu'en pensent les militants? Reportage à suivre. Et puis le secret de la confession et la polémique de la semaine dernière évoquée aujourd'hui entre le ministre de l'Intérieur et le patron des évêques de France. Et puis les courses dans le Quintet Plus à Saint-Cloud. Il fallait jouer l'As, le 5, le 11, le 13 et le 9.
À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière avec ce soir Romain Duris en Gustave Eiffel au cinéma. 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'actu. Autrement avec Cyprien Signy et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme?
Ce soir, on vous emmène dans les poubelles d'une centrale nucléaire. À quoi ressemblent les déchets dont on parle tant? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous saurez tout. Et puis on vous parlera de la taille de la tour Eiffel qui change et de vrais jeunes entrepreneurs.
À 19h15, du débat autour d'Éric Brunet, on va refaire le monde et notamment ce plan France 2030 et puis des points réguliers sur le temps avec vous Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance?
Demain un temps sec mais nuageux au nord le matin, plus lumineux en journée.
Le détail à la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Avec une page de l'histoire de France qui se tourne.
On l'a appris ce soir, Brice du Génie, Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, est mort à l'âge de 101 ans.
Oui, affaibli ces derniers mois et presque invisible du fait du Covid, Hubert Germain ne sortait de sa chambre des Invalides que pour des cérémonies d'hommage ou les enterrements de ses anciens camarades. En novembre 2020, aux funérailles de Daniel Cordier, il devenait donc à 100 ans l'ultime survivant. Le président Macron lui avait rendu hommage.
En cette cour d'honneur des Invalides, il n'en reste qu'un. À qui les braises ardentes sont rendues, c'est vous, Hubert Germain. Mon lieutenant, je compte sur vous, et vous le savez, vous ne serez jamais seul.
La fatigue et l'âge ne lui permettaient plus vraiment de raconter sa bataille de Bir Hakeim, son refus de l'invasion nazie et ce départ pour l'Angleterre sur un coup de tête où il fit la connaissance du général de Gaulle.
Étudiants, ouvriers, paysans, nous étions là.
De Gaulle était là. Et il m'a dit ceci, quand on dit ça à un gamin de 19 ans, je vais avoir besoin de vous.
De Gaulle avait besoin de lui. Aujourd'hui, le 1038e compagnon de la Libération disparaît. Conformément au souhait du général, Hubert Germain, dernier compagnon, sera inhumé dans la crypte du Mont-Valérien.
Les précisions de Brice du Génie pour RTL et cette cérémonie d'inhumation d'Hubert Germain sera présidée le 11 novembre prochain par Emmanuel Macron.
RTL, 18h03, le chef de l'État qui a présenté ce matin son plan à 30 milliards d'euros pour bâtir la France de demain.
Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Vous avez suivi ces annonces pour RTL, on va les décortiquer avec vous ce soir parmi ces 30 milliards. Un retient l'attention, c'est celui destiné au nucléaire.
Oui, pour mettre au point de nouveaux réacteurs, des mini-réacteurs, les SMR, plus petits, moins chers, moins de déchets. En tout cas, ça c'est sur le papier. Là, Emmanuel Macron, il essaye, un, de faire oublier le fiasco à 20 milliards d'euros du réacteur EPR de Flamanville, et deux, de convaincre que oui, le nucléaire est l'une des réponses indispensables pour lutter contre le réchauffement climatique.
Alors, le fil conducteur des annonces, William, c'est la lutte contre les émissions de CO2.
Oui, la décarbonation, 8 milliards d'euros pour l'énergie en mettant le paquet sur l'hydrogène, carburant du futur, avec deux super usines à venir. C'est là aussi que nos mini-réacteurs entrent en jeu parce qu'il faut beaucoup d'électricité pour produire de l'hydrogène.
Alors, pour construire cette France de 2030, William, Emmanuel Macron fait dans toutes ses annonces le pari de l'innovation.
6 milliards pour développer des puces électroniques toujours plus petites, 3 milliards pour des biomédicaments contre le cancer, 2 milliards pour de nouvelles techniques en agriculture. Je sais que tout ça peut paraître très abstrait, empiler les milliards, on ne voit pas toujours à quoi ça correspond, mais l'idée, pour vous la résumer, c'est de rattraper le retard ou de ne pas se laisser distancer par nos concurrents qui, eux aussi, savent aligner les zéros.
Ce qui était marquant, William, c'était la forme choisie pour faire ces annonces. Ça aurait très bien pu être un meeting.
Deux heures debout, seul en scène et sans notes, on s'y serait cru pour se projeter dans ces années à venir. Franchement, ça y ressemblait à un meeting. D'ailleurs, Emmanuel Macron a gentiment taclé les autres prétendants pour 2022.
On va essayer de se projeter loin, dans un moment où beaucoup concourent en quelque sorte à nous faire regarder à côté.
Mais dans l'entourage du président, on fait comme si de rien n'était. On dit simplement, beaucoup sont dans la critique, dans le commentaire permanent, dans le yaka faucon. Nous, on pense à la France et on agit.
Le décryptage de William Galibert du service politique de RTL est dans les rangs de l'opposition. Les Insoumis dénoncent une propagande électorale. Marine Le Pen évoque un « quoi qu'il en coûte, je veux être réélu » chez les écologistes critiques sur des mesures du passé.
Un drame humain terrible, les mots du procureur de Bayonne après la mort de trois migrants percutés par un train ce matin près de la gare de Saint-Jean-de-Luz.
Une quatrième personne gravement blessée a été hospitalisée. Philippe de Maria, vous êtes à Bayonne pour RTL. Les victimes étaient allongées sur la voie. Est-ce qu'on a ce soir une explication?
Oui, cette voie ferrée est difficile d'accès. Elle n'est pas surveillée constamment et sur cette portion, il n'y a pas d'éclairage. Le dernier train passe à 22h30. Le groupe a pu ainsi considérer que le coin était suffisamment calme pour se reposer allongé sur les traverses. Mais ça leur a été fatal. Le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, résume le témoignage du conducteur du train.
Il aurait aperçu plusieurs individus qui n'étaient pas en train de circuler sur la voie et qui étaient probablement allongés sur cette dernière. Il a appuyé sur le bouton d'alerte hein, qui permet un freinage d'urgence du train, mais que ce train s'est arrêté au bout de 310 mètres et que, en tout état de cause, cette manœuvre d'urgence ne permettait pas d'éviter l'impact avec ses différentes victimes.
Et le pronostic vital du blessé survivant n'est plus engagé à l'heure actuelle.
Philippe de Maria à Bayonne pour RTL.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec des électeurs de droite désabusés et des explications sur le secret de la confession. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et donc vous écoutez RTL, voici la suite de votre journal à 18h08. Il est donc rentré dans le rang, mais en passant du cavalier seul au collectif, Xavier Bertrand pourrait bien y laisser quelques plumes.
Après avoir martelé son opposition à une primaire, après avoir appelé au rassemblement derrière lui, il a finalement annoncé hier qu'il se plierait au congrès et au vote des militants LR, un revirement qui, dans les rangs des électeurs de droite, agace. Et vous avez pu le constater hein, cet après-midi à Châteauroux, Christian Panvert, à l'occasion d'une séance de dédicace de l'ancien président Nicolas Sarkozy.
Oui, les atermoiements de Xavier Bertrand agacent les militants LR. Pour Mathis, jeune conseiller municipal de 19 ans, encarté depuis 2019, le président de la région Hauts-de-France n'est pas le candidat idéal.
Quitter LR, c'est mettre en difficulté le parti. Et aujourd'hui, il revient comme une fleur. Je veux participer au congrès. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. J'aime beaucoup Valérie Pécresse, mais ce qui va m'empêcher de voter pour elle lors du congrès, c'est le fait qu'elle soit partie des LR. Dans ces cas-là, mon candidat sera M. Barnier.
Jean-François a fait 50 km pour voir Nicolas Sarkozy. Il ne pardonne pas à Xavier Bertrand d'avoir quitté les Républicains.
Il n'a pas tout à fait le poids pour devenir président.
Dans la file d'attente, Roger, 75 ans, vient au secours de Xavier Bertrand.
Je pense que ça peut être un bon candidat. Après, il va falloir pouvoir rassembler.
Selon lui, la campagne commencera vraiment le 5 décembre.
Un reportage signé Christian Panvert pour RTL. Après la polémique, une explication et des excuses. Cet après-midi, le patron des évêques français a été reçu par le ministre de l'Intérieur, réunion à l'issue de laquelle Mgr de Moulin-Beaufort a demandé pardon pour le débat suscité par ses propos sur le secret de la confession la semaine dernière. Il reconnaît par ailleurs la nécessité de travailler sur le sujet.
Pour Gérald Darmanin, en revanche, les choses sont claires. Les prêtres doivent dénoncer les faits de pédocriminalité à la justice.
Le secret de la confession est depuis quasiment 200 ans dans notre droit connu comme un secret professionnel. Il souffre cependant d'exceptions lorsqu'il concerne notamment les crimes commis pour des enfants de moins de 15 ans. Et qu'il est évident qu'il ne peut y avoir aucune sanction contre tout religieux ou toute personne qui a connaissance de faits d'abus sexuels contre des enfants et que ceux-ci doivent le porter pour la protection des enfants à la justice de notre pays.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à l'Assemblée cet après-midi.
C'est une compétition qui avait disparu il y a 12 ans. Le Tour de France féminin s'apprête à faire son retour l'an prochain et en avant-première pour RTL, vous pouvez déjà nous en révéler le parcours. Nicolas Georgerot, il y aura donc 8 étapes et un départ le 24 juillet, date de l'arrivée de l'épreuve masculine.
Oui, un Tour de France féminin dans la foulée de la grande boucle masculine. On connaissait déjà le départ de Paris et des Champs-Élysées. L'épreuve va ensuite se dérouler dans un grand quart nord-est du pays. Passage par Provins, Bar-sur-Aube, une arrivée escarpée à Épernay, celle qui avait réussi à Julien Alaphilippe en 2019 lorsqu'il avait pris le maillot jaune. Le Grand Ballon d'Alsace au menu aussi. Célestat également sur la carte. Et l'arrivée finale sera spectaculaire à la limite du territoire de Belfort et de la Haute-Saône. Ce sera à la planche des Belles-Filles, dans sa version la plus dure, avec son arrivée prolongée d'un kilomètre et cette pente qui avoisine les 25%. Une ascension qui sera d'ailleurs empruntée en 2022 par le peloton féminin et masculin.
Nicolas Georges, je remercie.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Vous savez ce qu'on dit, les voyages forment la jeunesse et Bruxelles en plus leur donne un coup de pouce à partir d'aujourd'hui et pendant deux semaines, les jeunes Européens âgés de 18 à 20 ans peuvent déposer leur candidature pour bénéficier de billets de train gratuits à travers toute l'Europe.
C'est génial ça.
60 000 billets au total pour des voyages entre février 2022 et février 2023. C'est chouette.
Ouais, 19 ans, 19 et demi. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps, Peggy, qu'est-ce que ça donne demain?
Demain encore un temps sec, Julien. Alors, avec beaucoup d'humidité le matin, sous forme de grisaille au nord de la Seine, sur les régions centrales entre la Bretagne et l'Auvergne-Rhône-Alpes, des nuages, beaucoup de nuages, mais tout ça va se disloquer évidemment. Et puis dans le sud, on a du soleil dès le matin, mais avec beaucoup de vent près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, ces nuages au nord vont se morceler. On va retrouver un temps plus lumineux, sauf sur le nord-est, où là, les nuages seront encore nombreux, avec quelques gouttes possibles, également sur le massif central et la pointe bretonne. Et entre PACA et la Côte d'Azur, entre la région PACA et la Corse, là, on pourra avoir une petite averse dans l'après-midi, voire un coup de tonnerre. Les températures, encore fraîches demain matin, on se couvre. Et même fraîches sur le nord-est dans l'après-midi. 13 degrés à Nancy, 14 à Lyon, 16 à Paris et à Beuville. 16 degrés également à Limoges, 19 à Bordeaux et 22 à Toulon.
Merci Peggy.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Julien Cellier, RTL Soir.
Et maintenant sur RTL à 18h13, on va vous aider à vous forger un avis sur le nucléaire. Alors stop ou encore? Emmanuel Macron a présenté son plan France 2030. 30 milliards, on le disait dans le journal, pour dessiner l'avenir. On vient de vous le présenter, hein, ce plan, avec notamment l'hydrogène, les voitures électriques, les avions bas carbone et une fondation centrale, le nucléaire donc. Mais est-ce que cette énergie est vraiment indispensable? Alors ce soir, on va poser le débat. Deux chefs de service face à face. On vous rassure, ils s'entendent très bien. Ici en studio, d'un côté, Martial Liu, chef de notre service éco. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez suivi la construction de ce plan. Vous allez nous présenter les arguments du gouvernement. Et donc, de l'autre côté de la table, Virginie Garin, chef du service qualité de la vie environnement. Vous suivez depuis des années les opposants et vous allez là aussi nous présenter leurs arguments. Martial, le gouvernement insiste sur la globalité de ce plan. En clair, le nucléaire doit permettre tout le reste, c'est ça?
C'est-à-dire, oui, c'est le liant à l'ensemble du plan qui a été présenté ce matin par le président de la République. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont présenté un écosystème en expliquant que finalement, le nucléaire allait permettre de construire ensuite une filière hydrogène vert, puisque vous savez que pour produire l'hydrogène vert, il faut de l'électricité décarbonée, sinon c'est pas vert par définition. Et là, en l'occurrence, pour faire ça, il faut 8000 heures à peu près d'électricité produite par an. C'est quasiment la moitié de la production d'électricité, ou de la consommation d'électricité plutôt annuelle en France. Donc on part déjà là-dessus, sur l'idée qu'il va falloir une capacité de production d'énergie absolument phénoménale, non carbonée. Donc le raisonnement, vous voyez, on part du nucléaire, qui est cette énergie qu'on a et dont on maîtrise à peu près la technique, pour produire de l'hydrogène, qui va permettre ensuite de produire les 2 millions de véhicules électriques qui sont promis ou prévus pour 2030.
Virginie, en revanche, on n'a rien entendu sur les économies d'énergie, sur un changement de modèle, sur un changement de façon de consommer en quelque sorte.
Voilà, le président a tout misé sur la technologie. Alors, il va aller à la COP26 à Glasgow le 1er novembre, vous savez, la grande négociation climatique. Eh bien, là-bas, les experts du GIEC vont lui dire que ça ne suffit pas. Il faut de la sobriété énergétique, il faut faire des économies, changer nos modes de vie. Bon, ça ne veut pas dire forcément être décroissant et revenir à la bougie, ça peut
c'est
être
parfois
du bon sens.
Ouais, c'est ça.
Par exemple, la crise du Covid a bloqué chez eux beaucoup de Français en télétravail. On a vu que c'était possible. C'est une façon intelligente de réduire les transports. Est-il utile aussi de construire autant de logements, ce qui consomme beaucoup, alors qu'une partie du parc immobilier est vide?
Martial, le pari du gouvernement, c'est que le nucléaire va permettre de répondre à une demande qui va exploser à l'avenir, qui sera très très forte.
Oui, alors c'est l'idée qu'on est face à une révolution industrielle comme on en a connu précédemment dans l'histoire. Alors c'est vrai ce que disait Virginie, c'est que ce qui est étonnant, c'est qu'on sait qu'une partie de l'effort doit passer par la sobriété, mais là en l'occurrence on nous vend donc un projet industriel qui est le projet de l'énergie nucléaire, parce qu'en face de nous, à un horizon de moins de 10 ans, vous avez 100 milliards d'objets connectés qui sont promis dans le monde entier d'ici 2030. Vous avez la digitalisation de l'économie, bien entendu, la domotique, c'est-à-dire les maisons intelligentes, les usines de 4.0 qui pensent par elles-mêmes quelque part, la physique quantique, tout ça nous a été présenté ce matin. Et donc, avec en plus une relocalisation de la production. Donc, quand on regarde ce qui nous attend, on se dit il faut une énergie propre de préférence, et il n'y a que le nucléaire effectivement à moins de 10 ans qui peut répondre à ça.
Mais Virginie, il y a des candidats à la présidentielle qui eux disent, d'ici 20 ans on pourrait se passer du nucléaire, c'est réaliste ça ?
20 ans non, surtout au rythme où on développe les éoliennes, on est très en retard. Alors après on va tout droit, pendant la campagne présidentielle, vers un affrontement entre les pro-nucléaires et les pro-énergies renouvelables. C'est un peu stupide, car on a besoin des deux, en tout cas pendant 15-20 ans. Les centrales nucléaires, elles vieillissent, même si on les prolonge, on ne va pas pouvoir construire à temps des réacteurs pour compenser la baisse. Les petits réacteurs annoncés par Emmanuel Macron ce matin ne suffiront pas. Il faut des EPR, et pour l'instant, on met 20 ans à les construire. Donc, à la place, comme on a décidé d'arrêter le charbon, le prix du gaz explose, il va falloir de toute façon plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires, plus de barrages, il va falloir de tout.
Merci Virginie, merci Martial, deux chefs de service donc sur RTL pour vous présenter deux visions de société. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rester en studio. J'espère que vous avez en tout cas aidé les auditeurs à se forger un avis sur cette question du nucléaire. Jean-Baptiste Djebbari, lui, est déjà convaincu. C'est le ministre des Transports. Il sera notre invité juste après une courte pause. Vous l'avez dit, Martial, hydrogène, avion bas carbone, voitures électriques en pagaille. Il va nous détailler ce plan France 2030 sur RTL juste après ça.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL 18h21 et vous l'avez compris, ce soir, on met donc le cap sur cette antenne sur les décennies à venir. On continue d'interroger ce plan France 2030 dévoilé par Emmanuel Macron aujourd'hui. 30 milliards, on vous l'a dit, pour dessiner les champions et l'industrie de demain. Bonsoir Jean-Baptiste Djebbari.
Bonsoir à tous.
Vous êtes le ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique en charge des transports. Alors, voitures électriques, avions bas carbone, transport à l'hydrogène, on a de nombreux projets à détailler avec vous. Avant toute chose, un mot du débat que nous venons de poser avec nos spécialistes sur RTL sur le nucléaire, parce que c'est une base de ce plan 2030. Ce sera un sujet de débat inévitablement pendant la campagne, avec quand même cette perspective. En 2050, un kilowattheure d'énergie grâce à l'éolien coûtera deux fois moins cher que le même kilowattheure produit par le nucléaire. Est-ce que c'est vraiment une énergie d'avenir aujourd'hui, le nucléaire ?
Ce qui est sûr, c'est qu'à court moyen terme, il y a complémentarité entre le nucléaire qu'on connaît aujourd'hui et les énergies dites renouvelables. Donc évidemment l'éolien, les champs solaires, les barrages hydroélectriques qu'on a en France. Et donc il y a une complémentarité parce que le grand mouvement qu'on connaît dans les transports, dans l'industrie, dans le bâtiment, c'est l'électrification. On électrifie de plus en plus d'usages et d'activités. Et donc on évalue pour les transports par exemple qu'on va avoir besoin de 4 fois plus d'électricité en 2035, 4 fois plus, et de 18 fois plus en 2050. Donc c'est massif. Et on commence à avoir des chiffres à l'échelle du pays. On nous dit qu'il faudrait parfois jusqu'à deux fois plus d'énergie électrique en 2050. Donc on va électrifier beaucoup, et pour être au rendez-vous en termes d'ordre de grandeur, il nous faut effectivement...
On ne peut pas se passer du nucléaire.
D'abord en socle, on aura du mal à se passer du nucléaire parce qu'on n'a pas non plus une météo comme on peut la connaître au Sahara avec beaucoup de soleil pour les champs solaires. On a quelques éoliennes, quelques milliers d'éoliennes en France, mais on sait très bien que si on voulait se passer du nucléaire, il faudrait passer de 8000 éoliennes à 40000, que par exemple sur les champs solaires, il faudrait... pour être indépendant du nucléaire, 200 000 hectares, 20 fois la surface de Paris. Donc vous voyez, si on raisonne en ordre de grandeur, on se dit qu'on doit être complémentaire. Et c'est pour ça que le plan il est intéressant aujourd'hui. C'est qu'il dit, sur le nucléaire, les politiques n'ont pas décidé depuis des générations, des décennies maintenant. Donc il faut décider, continuer une politique du nucléaire de maintenant, notamment au travers de réacteurs plus modulaires, et puis bien sûr continuer la politique sur les renouvelables.
Tiens, justement, parlons de ces mini-réacteurs qu'Emmanuel Macron veut construire. Est-ce qu'il pourrait, dans l'idéal, soulager des régions qui sont aujourd'hui assez dépendantes énergétiquement ? Je pense à la Corse, à la Bretagne, aux Antilles. Est-ce qu'il y a une réflexion déjà sur les lieux où on va les installer ?
D'abord, vous avez raison de dire que les lieux, c'est important parce que ce sont quand même des installations de sécurité, donc il faut d'abord de la place, et puis il faut évidemment mettre en place le référentiel de sécurité. Si on se dit qu'avec des réacteurs modulaires, on veut faire de l'hydrogène par exemple, il faut plutôt être assez proche des sites de consommation. Donc typiquement, les ports peuvent être de bons candidats ou les sites industriels. Donc il y a évidemment une réflexion autour des enjeux. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on en fait de cette électricité modulaire qu'on implanterait dans les territoires? Et là, il y a beaucoup de cas qu'on peut imaginer, la cogénération d'hydrogène par électrolyse de l'eau ou d'autres choses qui... D'ailleurs, ne sont pas des réflexions stricto françaises, stricto sensu. On a les Canadiens qui avancent très fort, on a les Américains qui ont un très grand plan de développement des réacteurs modulaires.
Mais ces petits réacteurs, puisque vous nous expliquez que la demande va être croissante, ils sont suffisants ou est-ce qu'il faudra de toute façon construire des EPR ?
D'abord, les réacteurs modulaires, on en a différentes tailles. Il y a des réacteurs qui font essentiellement de l'électricité et de la chaleur. Il y en a effectivement qu'on peut implanter à l'échelle de métropole pour fournir davantage d'électricité. Et puis, d'une manière générale, effectivement, il y a ce qu'on peut produire comme électricité, même avec ces réacteurs, même en nombre important. Un réacteur comme Flamanville, c'est 1600 MW. Un réacteur modulaire, c'est 300. Donc vous voyez quand même qu'on ne parle pas de la même chose. Il y a des réacteurs plus petits que ça. Donc certainement qu'il y a une complémentarité entre les sites.
Donc peut-être des EPR à l'avenir.
Donc peut-être. Vous savez, je pense qu'il faut raisonner scientifiquement. Et parfois, dans le débat public, on fait les bons constats scientifiques, appuyé sur le GIEC, c'est tout à fait raisonnable de le faire. Et les solutions sont souvent soit clivantes, soit idéologiques. Or, il y a une complémentarité dans ce que la science peut apporter. Et puis par ailleurs, on a une excellence française dans l'industrie du nucléaire qu'il nous faut pérenniser, parce que c'est une solution pour notre industrie, évidemment. C'est une solution d'indépendance en Europe, alors qu'aujourd'hui on dépend du pétrole qu'on ne produit pas, du gaz russe qui est évidemment russe par nature. Et puis c'est évidemment une solution pour être au rendez-vous de nos objectifs environnementaux.
Mais est-ce que vous arriverez à faire accepter la construction de ces réacteurs, qu'ils soient petits ou grands, sur le terrain? Aujourd'hui, on sait que la moindre éolienne est contestée. On se souvient de Plogoff en Bretagne, où une centrale nucléaire n'était pas la bienvenue il y a 40 ans. Est-ce que vous arriverez à les faire accepter?
De toute façon, la question de l'acceptabilité, elle est centrale pour tous les grands projets d'énergie, de transport. Et moi, je constate sur le terrain que quand on comprend ce qu'on fait, et faire de l'énergie, c'est évidemment utile. Et faire de l'énergie nucléaire, par exemple, pour électrifier les transports, pour avoir des véhicules électriques, c'est aussi contrôler le prix. Donc si on veut continuer, et c'est le cas en France, quand on compare notre pays à d'autres pays, si on veut continuer à être, un, indépendant, et deux, à maîtriser le prix de la facture d'énergie, il vaut mieux avoir des politiques que vous maîtrisez. Les ENR, les énergies renouvelables, sont des très bons compléments pour l'instant. On progresse aussi sur le stockage de l'énergie. L'hydrogène, c'est évidemment aussi un très beau sujet sur lequel la France peut être leader. Tout ça est complémentaire.
Tiens.
Et ça assure notre souveraineté.
Écoutez Emmanuel Macron, parce qu'il a eu une phrase qui nous a étonnés ce matin. On va le réécouter. Okay.
Il y aura beaucoup d'échecs derrière les 10 objectifs que j'ai donnés. Il faut qu'il y ait beaucoup d'échecs. La seule chose qui est nécessaire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un échec, il puisse être le plus rapide et le moins coûteux possible. Sortons d'une habitude prise qui consiste à dire « l'échec est un drame » pour pouvoir rebondir.
Là, ce plan, il mise des milliards sur l'hydrogène, des milliards qu'on espère payants quand même, rassurez-nous. Vous êtes persuadé que ce sera l'énergie du futur? Vous êtes certain que toute l'industrie va s'y convertir?
Il y a des cas d'usage qui sont intéressants pour l'hydrogène. Dans les transports, on mise plutôt sur l'hydrogène pour la mobilité lourde, pour les bus, pour les cars, pour les trains. Et ça existe déjà. On a fait rouler un train à Valenciennes il y a quelques semaines avec Alstom, demain pour les avions. Et l'hydrogène, c'est une technologie qui est connue. C'est le 19e siècle. Donc on a fait voler un avion à hydrogène en 1985 en Russie, en URSS à l'époque. Donc c'est connu. Le sujet pour nous maintenant, c'est de l'industrialiser. Et de l'industrialiser en France. Et c'est là-dessus qu'on joue effectivement... en quelque sorte, une partie du destin français. Et c'est là-dessus qu'on peut aussi recomposer des politiques d'indépendance, ce qu'on avait fait dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Et on a des industriels extraordinairement compétents, et Air Liquide et beaucoup d'autres, Faurecia pour le stockage. Et je crois que moi, c'est un très grand enjeu de l'indépendance et de la puissance française, s'agissant de l'énergie, bien sûr.
Emmanuel Macron veut déployer un premier avion bas carbone en 2030. Airbus dit on sera prêt en 2035. C'est réaliste 2030? La recherche avance assez vite?
D'abord, on a les avions qui volent aujourd'hui, des avions électriques. Alors, c'est des petits avions. Moi, j'en ai essayé à Marseille il y a maintenant quelques semaines. On a des avions hybrides, d'ores et déjà, qui volent, des avions de quelques places. Et puis, on a effectivement tout le travail qui est fait autour de l'hydrogène. L'aviation bas carbone, c'est deux choses. C'est la future génération d'avions sobres en carbone. Et là, l'industrie avance vite et très vite. Et je le dis, c'est un des seuls secteurs mondiaux sur lesquels la France a un impact. On a un impact parce qu'on a Airbus, parce qu'on a Safran, parce qu'on a Thales et beaucoup d'autres. Et deuxièmement, l'aviation bas carbone, c'est aussi ce qu'on appelle les carburants alternatifs au kérosène. Et là aussi, c'est extrêmement concret. Vous faites aujourd'hui voler, d'ores et déjà, des avions avec des huiles de cuisson usagées, avec des déchets agricoles et forestiers, demain avec de l'hydrogène. Et c'est là aussi, à la fois de très beaux objets industriels pour réindustrialiser les territoires et évidemment de la décarbonation en dur, si je peux dire.
Ce plan, à gauche comme à droite, il est critiqué ce soir, perçu comme un programme électoral.
Non, mais critiqué
avec, à gauche comme à droite, on nous explique que c'est une façon, quelque part, d'enjamber la campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous répondez à l'opposition ?
Bon, bah d'abord, c'est attendu que l'opposition critique la majorité en place. Je réponds que, d'abord, 2030, c'est un peu au-delà des horizons politiques de beaucoup des protagonistes, donc ça pourrait être un petit peu consensuel. Et par ailleurs, nous avons fait un exercice assis sur ce qui devrait être consensuel, c'est-à-dire la science. Et on a sollicité des universitaires, des chercheurs qui étaient là d'ailleurs ce matin, des élèves en école d'ingénieurs, pour essayer de savoir quelles étaient les meilleures solutions pour le pays, en étant lucides sur les grands mouvements géopolitiques, sur la dépendance que nous avons dans notre pays à l'égard des pays fossiles et à l'égard par exemple du gaz russe. Et sincèrement, c'est un travail méticuleux, ambitieux, qui pose des horizons ou un rêve qui est atteignable, a dit le président. Et il a raison. Ça devrait donc être consensuel. Je regrette que les débats politiciens viennent parfois polluer la concorde.
Merci Jean-Baptiste Djebbari, ministre en charge des Transports, d'avoir été ce soir notre Merci invité sur RTL pour détailler ce plan France 2030. On va marquer une petite pause et ensuite RTL Soir va se poursuivre. On va vous emmener dans un instant au cinéma avec Gustave Eiffel dans Laissez-vous tenter dernière. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier.
Bonne fin de journée avec RTL, 18h33.
RTL Soir, avec Julien Cellier.
Il est donc grand temps de refaire un point sur les titres de l'actualité avec vous, Marion Calais.
Le jeune homme qui avait violemment bousculé sa professeure la semaine dernière à Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne, sera jugé demain en comparution immédiate pour violences volontaires aggravées. Deux autres mineurs qui avaient filmé et diffusé la scène seront, eux, présentés à un juge des enfants. Les réquisitions dans le procès du ministre en charge des PME, Alain Griset, 10 à 12 mois de prison avec sursis, 30 000 euros d'amende, 3 ans d'inéligibilité et interdiction d'exercer une fonction publique. Et puis, nombreux hommages ce soir après l'annonce de la mort d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération. Il avait 101 ans. Emmanuel Macron, qui présidera la cérémonie d'inhumation le 11 novembre, salue un résistant de la première heure qui reconstruisit notre patrie.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps maintenant, Peggy, pour demain.
Plus d'humidité demain matin avec de la grisaille et des nuages sur les deux tiers nord du pays, mais un temps sec, un ciel dégagé dans le sud avec toujours beaucoup de vent près de la Méditerranée. Et dans la journée, le ciel sera plus lumineux au nord, sauf sur le nord-est où ça restera nuageux avec quelques gouttes possibles, comme sur le massif centrale. Et entre PACA et Corse, les températures, elles seront juste sur le nord-est, de 13 à 18 degrés au nord, de 18 à 22 au sud.
Merci Peggy.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. Laissez-vous tenter dernière.
Allez, bonne fin de journée avec RTL, c'est le petit moment de plaisir maintenant. Laissez-vous tenter dernière et les chouettes conseils de la chouette bande de LVT pour vos soirées de la semaine. Bonsoir Stéphane Boutsock.
C'est un bel accueil. Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde.
Puisque vous êtes là, on va parler cinéma. Tiens, dans un instant, on va évoquer avec vous la sortie du film Eiffel. Oui. C'est demain sur nos écrans. Juste un point sur le feuilleton du moment, les chiffres du box-office du dernier James Bond qui est sorti il y a 6 jours maintenant.
Ah ben, c'est tout simple, c'est le meilleur démarrage de l'année. C'est-à-dire que demain, mercredi, on sera à peu près 1,5 million d'entrées en France. C'est le plus gros démarrage 2021. Ça sera sans doute le plus gros succès de l'année au final. C'est un peu moins que Spectre, mais c'est un peu plus que Skyfall. Il faut préciser que le film fait 2h45, donc il y a une séance en moins. Donc c'est un très beau résultat.
Ah oui, c'est un très beau score, effectivement. Bon, le cinéma français, lui aussi, est capable de produire de gros films. La preuve avec ce Eiffel, qui est signé Martin Bourboulon.
C'est à la fois du grand spectacle, en effet, mais aussi la découverte de la vie amoureuse de Gustave Eiffel, ingénieur bâtisseur, créateur de la tour, emblème de Paris. Le film propose en fait de suivre les étapes mouvementées de la construction du monument, mais nous plonge aussi dans l'intimité de cet homme dont on ne connaît pas grand-chose. Vous allez découvrir la passion de Gustave pour Adrienne, amour contrarié de jeunesse qu'il retrouve marié. Leur passion adultère met en péril l'œuvre de Gustave Eiffel. Martin Bourboulon, le réalisateur, a navigué en fait entre l'intime et le spectaculaire, en bénéficiant d'un solide budget, d'effets spéciaux ou de vrais décors à la mesure du projet.
On a reconstruit un pied de la tour Eiffel à échelle 1 jusqu'à 25 mètres de hauteur. Et de ce pied-là, qu'on a entièrement reconstruit, avec la vraie inclinaison, les vraies fondations, les vraies matières de métal, on s'en est servi pour justement l'adapter aux différents stades et aux différentes phases d'évolution de la construction de la tour. Avec ça, évidemment, il y avait la notion des effets spéciaux. Et moi, ce que je tenais absolument à avoir, c'était des effets spéciaux qui, certes, soient dans un côté un peu waouh, mais soient toujours vécus en arrière-plan de quelque chose qu'on filmait d'abord. Quand je pense à une scène comme ça, que les gens n'ont pas encore vue, mais que j'espère qu'ils apprécieront, qui est notre scène un peu phare de la réunion des quatre piliers au moment du film, on est d'abord avec un homme qui essaye de faire en sorte que tout se passe bien, et à travers son regard, on assiste comme ça à des plans très impressionnants de vertige. Et c'était une manière pour moi d'intégrer le plus naturellement les effets spéciaux dans ce film.
Romain Duris et Emma Mackey, vous savez, c'est la série de la star Sex Education qui est diffusée sur Netflix, sont à l'affiche du très réussi Eiffel, à découvrir donc à partir de demain au cinéma.
C'est noté, tous en salle alors. Merci beaucoup Stéphane.
Laissez-vous tenter, dernière.
Une courte pause maintenant dans RTL Soir avant de défaire le monde. Vos 20 minutes d'actu avec un autre regard pour faire le plein de connaissances avec la fine équipe. Cyprien Sini, Laurent Tessier, Arthur Asquin, Céline Landreau, ici présent au studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir. Bonsoir.
On a beaucoup parlé nucléaire depuis 18h. Mais tiens, au fait, les déchets nucléaires, qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça fonctionne? On en parle juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.